nous démarrons ce débat des journées de l'économie sur l'Europe pour discuter des enjeux de l'intégration et des mécanismes économiques et financiers qui, nous l'espérons, pourraient renforcer cette intégration. Je voudrais commencer par dire que les échanges que nous allons avoir aujourd'hui sont certainement un éclairage complémentaire à ceux de la conférence finale des journées de l'économie qui se dérouleront le jeudi 6 novembre prochain à 16h et qui seront consacrées au thème suivant: l'Europe peut-elle revenir dans l'histoire? Donc cette conférence finale des GECO portera sur les déterminants du décrochage européen, sur les solutions à y apporter et seront sans doute une sorte d'actualisation du rapport Draghi qui avait été remis en septembre 2024 à la Commission européenne. Mais dans l'échange que nous allons avoir aujourd'hui, nous allons plutôt revenir sur un autre rapport, celui remis par M. Enrico Letta au Conseil européen en avril 2024, et qui lui était plus spécifiquement consacré au marché unique européen. Et nous allons revenir sur ce rapport avec M. Enrico Letta lui-même. Donc, je me permets de rappeler que M. Enrico Letta est président de l'Institut Jacques Delors, doyen de l'IE School of Politics, Economics and Global Affairs à Madrid, et que vous avez été par ailleurs président du Conseil des ministres italien. Donc, je suis Jérôme Krill, je suis économiste à l'OFCE et nous allons un peu revenir, si vous le voulez bien, dans ce rapport et dont vous rappeliez d'ailleurs, Monsieur Letta, en préambule, que c'était un projet d'intégration européenne qui était un modèle de prospérité et de régulation, mais qu'il avait été conçu dans un monde plus petit, plus simple et moins intégré, donc moins global. Et je pense qu'une des questions sur lesquelles on va revenir dans le cadre de cet échange, c'est la question suivante. C'est dans un monde qui est devenu à la fois global et fragmenté, où l'Union européenne est sans cesse soumise à des rapports de force avec les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, notamment, comment les Européens peuvent-ils redevenir les acteurs de leur propre destin? Une vaste question sans doute. On va se donner quelques 40 minutes pour tenter d'y voir plus clair. Je vous propose, et je crois que vous en étiez d'accord, qu'on commence par revenir sur le contenu de votre rapport, sur l'actualisation de sa mise en œuvre, sur les freins éventuels à sa mise en œuvre et auxquels l'environnement géopolitique et macroéconomique n'est sans doute pas étranger. Donc, si vous le voulez bien, Monsieur Letta, je vous propose de commencer par nous rappeler les raisons qui ont prévalu peut-être à cette commande du rapport qui vous a été faite par le Conseil européen, ses grands objectifs et puis ses recommandations. Merci.
Évidemment, c'est un plaisir d'échanger, un grand plaisir de pouvoir élaborer à partir du rapport, comme vous le dites, à partir de la nécessité qui a fait en sorte que le Conseil européen ait conçu cette idée. Et la nécessité, fondamentalement, est la suivante. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, peut-être grâce à cet exercice, que le marché unique européen, en vérité, n'est pas intégré, ou est intégré seulement à moitié. Et une large partie du secteur économique de notre continent reste divisée, fragmentée en 27. Tout ça dans le même temps dans lequel, quand on doit raconter, on doit parler flèche des économies au niveau global, on fait toujours le trio entre États-Unis, Chine, Europe. C'est toujours les trois, et pour dire qui performe mieux des autres. En vérité, les États-Unis et la Chine sont deux systèmes qui ont une unité interne profonde. Politiquement, ce sont deux systèmes qui parlent avec une voix. Et on les connaît très bien, les deux voix qui représentent les États-Unis et la Chine. L'Europe, en vérité, a une gouvernance hyper fragmentée et surtout se trouve à avoir un système de marché unique dans les trois secteurs clés de la connectivité, de l'énergie et surtout des marchés financiers qui est fragmenté en 27 et non pas uni en un. Tout ça pendant qu'on a, avec succès, intégré la monnaie, et donc on a une seule monnaie aujourd'hui dans quasi toute l'Europe. Et c'est un succès, je le rappelle à moi-même et à vous tous, parce que si je prends le cas de la France entre dans le débat sur la monnaie unique européenne avec 51-49. Le fameux référendum de 92 que Mitterrand avait appelé pour approuver le traité de Maastricht, qui allait déclencher le parcours pour la monnaie unique, est accepté par les Français à 51-49. Et aujourd'hui, 80% des Français sont heureux d'avoir l'euro et ne veulent pas revenir à la monnaie d'avant. Le même pourcentage pour les Italiens, pour les Espagnols, les Allemands. Bref, l'euro est un succès. Mais l'euro nous donne peut-être cette idée fausse que on a un système économique unique, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on est à 27 dans beaucoup de domaines. Et cette asymétrie aujourd'hui est la clé de tous les problèmes. Parce que, comme vous disiez, et je m'arrête rapidement là dans ces mots introductifs, quand le marché unique a été créé, quand l'euro a été créé, le monde était un monde petit. Dans ce monde petit, les pays européens fondateurs étaient tous des grands pays. C'était des grands pays qui étaient dans les premières 5, 6, 7 positions au niveau mondial. On a même créé le G7. Ces mêmes pays fondateurs, les grands pays. Les grands pays européens étaient automatiquement les grands pays du monde. Aujourd'hui, on se trouve dans un monde qui a été bouleversé par des dimensions qui, dans les dernières 20 années, ont changé à cause de la poussée d'économies hors Europe. Chine et Inde, premièrement, mais je peux rappeler le rôle des pays de l'ASEAN, de quelques grands pays africains. Du Brésil, Mexique, Pakistan ont fait une longue liste et on arrive facilement à dire que le monde, dans ces 40 ans, a doublé de taille et toute la partie qui s'est ajoutée est une partie non européenne. Et cette dimension nouvelle est une dimension qui m'a fait dire que mon pays, l'Italie, était 60 millions d'habitants il y a 30 ans. 60 millions d'habitants aujourd'hui, mais il y a 30 ans, l'Italie était grande économiquement comme la Chine et l'Inde mises ensemble. Et aujourd'hui, la Chine et l'Inde mises ensemble sont peut-être 20 fois l'Italie. En deux mots, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on ne peut pas imaginer de continuer avec un marché fragmenté comme il l'est dans un monde de ces dimensions-là. Parce que dans les secteurs énergie, connectivité, marché financier, cette fragmentation est le tombeau de la compétitivité européenne. Et si on continue comme ça, dans quelques années, on va seulement pouvoir se poser la question si être une colonie américaine ou une colonie chinoise. Et je pense que nous avons toute la possibilité, tous les choix d'être européens. Mais pour être européen, il faut être capable d'intégrer et d'intégrer suffisamment dans les domaines qui ne sont pas intégrés aujourd'hui. Ça ne veut pas dire éliminer l'identité des pays membres, ça veut dire intégrer cette identité dans une souveraineté européenne. Si nous perdons cette opportunité, nous allons être dépendants des autres. Et la souveraineté qu'on demande au niveau national ne sera que un simulacre, quelque chose de fake qu'on se raconte, mais en réalité, on sera des colonies, on sera dépendants. Termine ces propos liminaires en disant que le défi qu'on a devant nous, pour moi, est résumé dans un tweet que Elon Musk avait fait il y a quelques mois et qu'il a tout de suite effacé. Moi, j'ai fait le screenshot, donc j'ai ce tweet avec moi. Et il faudrait mettre ce tweet dans la porte d'entrée du Berlaymont à Bruxelles, Berlaymont, le palais de la Commission. Dans ce tweet, Elon Musk s'adresse aux Ukrainiens, mais en vérité, il s'adresse à nous, les Européens. Il nous dit, il leur dit, If I disconnect you, you collapse in 1 minute. Alors, la possibilité que quelqu'un comme Elon Musk, c'est-à-dire, ce n'est pas un pays, c'est un citoyen d'un autre pays, puisse nous dire, If I disconnect you, you collapse in 1 minute, et le fait surtout que ce soit vrai, c'est quelque chose qui doit nous dire peut-être notre souveraineté, notre sécurité, notre autonomie stratégique vaut plus que les protections nationales qu'on met les uns contre les autres à l'intérieur de l'Europe.
Je vous entends et je suis d'accord avec vous sur le diagnostic et sur justement le changement de taille de l'Union européenne aujourd'hui avec ce qu'elle était il y a encore même peut-être 25 ans. Mais nous restons quand même d'abord un grand marché et un marché riche avec. En dépit de toutes les discussions qu'il peut y avoir sur le pouvoir d'achat suite à l'augmentation de l'inflation qu'on a connue après le Covid, nous avons une zone pour laquelle le produit intérieur brut par habitant est quand même très élevé en comparaison internationale toujours. Donc l'UE, c'est quand même 450 millions d'habitants, c'est donc encore une grande zone. Qu'est-ce qui fait que, en dépit de ce pouvoir d'achat, de cette richesse relative par rapport au marché chinois, indien, brésilien, on a pris autant de retard par rapport à ces pays, ou en tout cas, on s'est fait grignoter par ces pays? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec le marché unique? Et surtout, vous avez parlé de cette fragmentation dans trois secteurs. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour rattraper le retard pris?
Ce qui n'a pas marché avec le marché unique, c'est exactement le manque de marché unique, la fragmentation. Dans beaucoup de secteurs dans lesquels on est nationaux, on n'a pas de dimension européenne, on cherche d'avoir toujours le drapeau national qui est celui qui nous mène, et à la fin, en ayant le drapeau national, on n'est pas capable de gagner. Je vous prends l'exemple de cette année, année 2025, les fusées qu'on a lancées. Les États-Unis ont lancé 139 satellites, les Chinois une soixantaine et nous, les Européens, quatre. Et tout ça parce que on n'a pas la dimension d'échelle. Moi, je salue le fait que finalement, Leonardo, Airbus, Thales ont décidé il y a quelques jours d'annoncer une aventure commune dans les satellites de dimension européenne. Donc, ce qui n'a pas marché, c'est qu'on n'a pas compris que la dimension d'échelle compte aujourd'hui dans le monde. On gagne dans quelques secteurs, l'industrie aéronautique par exemple, parce que Airbus est un. Et Airbus, en étant un à l'échelle européenne, bat Boeing. Si elle y avait l'Airbus lituanien, l'Airbus italien, l'Airbus irlandais, l'Airbus portugais, c'est Boeing qui gagnerait. Parce qu'il y a des secteurs où, ou bien on est à la dimension d'échelle européenne, ou bien on perd. On voit ce qui se passe sur le télécom. On est fragmenté à 27. Il y a 30 ans, tous les brands, toutes les technologies étaient européennes. On est resté fragmenté. Aujourd'hui, tout est américain, chinois, asiatique. Et nous, les Européens, on a la taille, on n'est plus capable de faire les investissements nécessaires. Donc, ce qui manque est cette dimension d'échelle, la nécessité de passer de la protection des champions nationaux, qui ne sont plus capables aujourd'hui de tenir la compétition globale, à une dimension européenne, de champions européens, qui soient capables de tenir cette compétition. Évidemment, pour arriver là, il faut que les trois secteurs que je vous ai cités, connectivité, énergie, marché financier, deviennent un marché. Et il y a toutes les possibilités de le faire parce que c'est seulement une question de volonté politique. On ne l'a pas fait pour une raison d'inertie politique. Il ne faut même pas beaucoup de grandes réformes. Avec les présents traités, on peut faire tout dans ces domaines. Et j'ajoute, il n'y a pas d'unanimité à surmonter. Parce que ce sont des domaines dans lesquels c'est la majorité qui est nécessaire, donc les votes à la majorité. Donc le vrai sujet est de comprendre que la protection des champions nationaux, du système national, dans ces secteurs, est le tombeau de la compétitivité au niveau européen. Donc il faut avoir une feuille de route pour intégrer ces domaines comme on l'a fait avec l'euro. Et je vous ajoute que si vous m'aviez demandé, quand j'étais étudiant de droit européen et Maastricht étaient en train d'être négociés. Quelle sera la chose la plus impossible, la plus compliquée à intégrer? Je vous aurais répondu la monnaie. Parce que penser de renoncer à l'identité que ta propre monnaie te donne, pour moi, c'était la chose la plus complexe à arriver à obtenir. Et c'est la chose qu'on a fait. Et aujourd'hui, on se tient fragmenté dans des questions sur lesquelles l'identité n'a rien à voir. Les marchés financiers fragmentés, quel est le sens? Donc, mon point à moi, c'est qu'il faut aller de l'avant dans cette. Et j'ai un élément d'optimisme qui me vient du fait que soit la Commission européenne, soit le Conseil européen dans la réunion du 23 octobre, a décidé d'accepter cette idée que j'ai mise dans le rapport, d'avoir une échéance pour le complètement du rapport et du marché unique européen. Et cette échéance a été identifiée en l'année 2028. Donc, on a aujourd'hui une échéance, on a des feuilles de route pour arriver à intégrer le marché unique avant 2028. Je emploie un slogan, 2028 peut être le nouveau 92. L'Europe de 92 était la grande mobilisateur d'énergie de Jacques Delors. On peut faire la même chose aujourd'hui avec ces décisions que les institutions européennes ont prises. Et j'ajoute, le Conseil européen, ce n'est pas seulement une institution européenne, c'est les 27 pays membres. Ils ont tous accepté ce 2028.
Une réalisation concrète du rapport et c'est une bonne chose. Est-ce que la fragmentation dont vous parlez, qui est finalement consécutive pardon, à un manque de taille dans certains projets, peut pas trouver aussi sa source dans la politique de concurrence? Est-ce qu'on peut pas finalement regretter que nous autres Européens avons accordé à la politique de concurrence beaucoup plus d'importance que ne le faisaient forcément les Chinois, mais ça n'était pas une surprise, mais que ne le faisaient peut-être les Américains qui sont susceptibles éventuellement de mettre en place ce que nous on qualifierait de politique industrielle, qui vont sans doute qualifier plutôt de politique stratégique, mais qui leur permettra d'échapper potentiellement aux questions de concurrence qu'on sait toujours un peu auto-imposés et qui peut-être nous ont empêchés d'avoir d'autres projets mobilisateurs que le projet Airbus que vous rappeliez à juste titre. Est-ce que c'est pas aussi, est-ce qu'on n'a pas besoin d'une petite révolution en faveur finalement d'un bon enchevêtrement entre politique de concurrence et politique industrielle pour sortir par le haut de cette situation de décrochage européen qu'on a connu depuis 20 ans?
Alors, je pense que vous avez raison. Il y a là un point compliqué parce qu'il faut trouver un bon équilibre, parce qu'il faut aussi dire que grâce à une application de protection des consommateurs et politique de concurrence, on a en Europe beaucoup de privilèges comme consommateurs. On a des prix, par exemple, de la connectivité qui sont les plus bas du monde. Et on a beaucoup d'avantages qui viennent de ça. Le vrai sujet est que aujourd'hui, il faut bouger et passer du marché national au marché européen. Parce que je comprends que si le marché est national, il faut qu'il y ait une concurrence au niveau national. Et donc, il faut qu'il y ait 3, 4, 5 opérateurs de télécom. Le point est, pourquoi ne pas arriver à un marché unique des télécoms, par exemple, européen, avec ces 10 opérateurs? Mais si on avait 10 opérateurs, on pourrait avoir la concurrence et donc les prix bas, mais ces opérateurs auraient une taille plus importante que celle qui est aujourd'hui les 100 opérateurs de télécom en Europe, puisqu'on en a 4, 5 chaque 27 pays, se trouvent à avoir par rapport aux géants américains et chinois. Donc, il faut trouver un bon équilibre entre les deux. Il est évident qu'une politique industrielle est fondamentale. Cette politique industrielle aujourd'hui a besoin des facteurs de compétitivité. Le premier est le coût de l'énergie. En Europe, on passe de 1 à 5, Suède 1, Italie, Roumanie 5. Et évidemment, il n'y a aucun lieu au monde où tu as dans une partie du territoire l'énergie qui coûte 1 et un autre coin du territoire l'énergie qui coûte 5. La même chose sur l'innovation, la connectivité, mais surtout la possibilité de mobiliser l'épargne et les investissements. Le pilier du rapport est la union des épargnes et des investissements qui a eu, dans laquelle j'ai eu un fondamental inspirateur dans la Banque de France, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, et beaucoup d'autres lieux français qui m'ont beaucoup inspiré. Mais quel est le point essentiel? Le point essentiel est que si on n'arrive pas à créer un marché européen, là aussi, les épargnes des Européens vont là où les marchés sont plus attractifs. Et on calcule que 300 milliards d'euros est le chiffre d'épargne des Européens qui s'en va chaque année aux États-Unis nourrir les entreprises américaines qui reviennent en Europe acheter les entreprises européennes avec l'argent des épargnants européens, ce qui évidemment est le plus incroyable des suicides politiques qu'on puisse avoir.
Justement sur l'union de l'épargne et de l'investissement, qui a longtemps été donc appelée l'union des marchés de capitaux et qui, je pense, à juste titre, devait changer sémantiquement pour qu'on comprenne mieux qu'il s'agissait d'apparier l'épargne des épargnants avec les investissements des entreprises non financières sur le territoire européen. Je pense que c'est un meilleur branding, si je peux me permettre cet anglicisme. Mais je reste, moi, toujours circonspect par les raisons qui font qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'union de l'épargne et de l'investissement au sein même d'une zone qui reste quand même très intégrée, en tout cas sur ses marchandises et sur ses services, dans une zone pour laquelle, en fait, depuis 1990, on a une mobilité parfaite des capitaux entre les États membres, ce qui n'a pas abouti à résorber la fragmentation financière entre les différents États membres, du fait sans doute d'une forte bancarisation. On est beaucoup plus à recourir au crédit bancaire en Europe que ne le font les Américains, par exemple. Et nos marchés bancaires restent quand même très nationaux. Comment faire finalement aussi concrètement pour lever ce dont j'ai le sentiment, c'est qu'il y a une forme de réticence des banques elles-mêmes à adopter l'union de l'épargne et de l'investissement. Vous rappeliez que le gouverneur de la Banque de France y était très favorable, je n'en doute pas. Moi, je ne comprends pas comment on va passer outre cette réticence des banques et je ne sais pas si vous avez une idée pour dépasser justement ce problème. Parce qu'on voit bien que les banques français dispose du marché français, les Allemandes du marché allemand, et qu'il n'est pas tout à fait sûr qu'elles aient envie de voir le marché s'étendre et une certaine partie de leur clientèle leur échapper. Alors peut-être pas au bénéfice des Américains, mais je ne suis pas sûr. Vous disiez tout à l'heure hein, qu'on avait ce problème de fragmentation et de volonté de chaque État membre de conserver les usines pour soi. Est-ce que les États membres n'ont pas envie de conserver les banques pour eux-mêmes?
C'est une très bonne question. Je serais tenté de répondre que là, la question est liée surtout au changement générationnel. Parce que les plus jeunes ont une approche à l'argent, aux banques, à la digitalisation de l'argent très différente, qui est en train de changer tout. Donc l'idée que tu vas à ta banque de toujours, où ton papa a été, où ta maman a été, et donc avec l'agence du coin et tout ça, c'est quelque chose qui change. Donc cette pression sur le territoire, ce contrôle du territoire ne va plus garantir le futur des brands bancaires qu'on connaît, que comme vous venez de dire très justement, sont les mêmes depuis toujours. On a le même landscape, c'est la même crèche hein, depuis toujours. On a vraiment Saint-Joseph, vous faites vraiment, c'est la même crèche depuis des décennies et ça ne peut pas continuer comme ça. Quelle est la raison pour laquelle les choses sont comme ça? Le fait que, à côté de la Savings and Investments Union, on a laissé l'union bancaire traîner, je pense surtout à cause de la crise financière et des dégâts psychologiques aussi de la crise financière. Parce que la crise financière a laissé chaque pays dans l'idée que chaque pays doit être souverain dans la gestion de son argent. Et aujourd'hui, l'union bancaire n'existe pas, sinon partiellement, parce que même si vous êtes une banque qui a 15 présence dans 15 pays européens ou 15 pays de la zone euro pour bouger de l'argent de la même banque, vous êtes une même banque, d'un pays à l'autre, vous avez besoin de l'autorisation de la banque centrale de chacun des pays, ce qui est un peu fou. Vous êtes la même entité entrepreneuriale, donc c'était comme si vous étiez une même entreprise et pour bouger l'argent d'une subsidiaire à une autre, vous devez demander à une autorité nationale. C'est fou tout ça. C'est exactement ce qui se passe chez nous à cause du manque de l'union bancaire. Donc mon point à moi est très simple. L'union bancaire est parallèle à ce discours sur la Savings and Investment Union, mais il faut absolument qu'on bouge dans cette direction. Je pense que c'est dans l'intérêt des banques, parce que les banques doivent aussi bouger de leur situation statique. Et doivent avoir la possibilité, premièrement, de bouger en termes de merger. Les banques européennes sont toujours les mêmes, mais elles sont toujours plus petites si on les regarde en les comparant aux banques américaines. Je vous demande de faire un exercice très simple, de faire un exercice de comparaison seulement entre les principales banques européennes et les principales banques américaines pour voir qu'est-ce que le fait que la crèche européenne est restée identique, qu'est-ce que ça a donné en termes de comparaison? Et ça a des conséquences. Financièrement, on est en train de devenir une colonie des États-Unis. Si en Europe, il y a des grandes affaires qui se font, c'est une banque d'affaires américaine qui normalement fait ses affaires. Et tout ça parce que la dimension compte. Donc, moi, je pense que c'est dans l'intérêt des banques faire bouger cette crèche, faire en sorte que le panorama puisse bouger et aider des concentrations, des consolidations, ce qui ne veut pas dire, je ne veux pas être mal entendu sur ça, il n'y a pas d'espace pour les banques petites du territoire. Il y a cet espace, comme il y a l'espace pour les petites et moyennes entreprises. Mais tout ça fonctionne s'il y a aussi des grands qui sont très grands. Si les grands ne sont pas assez grands, parce qu'ils sont capés au niveau national, et évidemment, il va y avoir aussi un manque de compétitivité en bas. Et je pense que ça, c'est le point fondamental du discours.
Toujours sur l'union de l'épargne et de l'investissement, j'ai eu le sentiment à lire le rapport qu'il y avait aussi une volonté de prise de risque un peu plus importante sur le territoire européen au travers de la création de, peut-être pas de capital risque, mais de quelque chose qui ressemblerait. Comment est-ce qu'on articule cela, la montée en puissance d'une telle union avec la nécessité de s'assurer d'une certaine forme de stabilité financière ou stabilité bancaire. Qu'est-ce que vous voyez comme acteur, peut-être au pluriel, pour assurer cette assurance d'une stabilité financière?
Le complètement de la Banking Union est là pour nous dire que là, il y a le troisième step avec la garantie des dépôts qui est là pour assurer cette stabilité et d'un autre côté, pour aider les pays dans le cas d'une crise, on avait créé le MES, le ISM. Et le ISM n'a jamais été appliqué, sauf pour des très petites situation, heureusement, hein, ça veut dire qu'on est sorti définitivement d'une crise. Et le SM aujourd'hui est en difficulté parce qu'il y a un pays, hélas, le mien, qui n'a pas ratifié les changements du statut du SM. Je me demande toujours pourquoi, quelle est la raison, parce qu'il y a plein d'argent dans le ISM. Moi, j'ai même proposé dans le rapport. C'est une des choses qui a été le moins vue dans le rapport, qu'on emploie le ISM pour financer les dépenses en matière de défense. On a de l'argent là. Le ISM, on l'avait employé théoriquement, puis on n'a pas eu besoin pour la relance post-Covid. On avait décidé de faire bouger et de dire, on a cet instrument, on a cet argent. C'est commun, on le fait ensemble. Puis à la fin, on a fait Next Generation EU sur le Covid, donc ça n'a pas été nécessaire. Mais ma proposition à moi est maintenant sécurité, défense commune, pourquoi ne pas utiliser le ISM? Mais voilà, tout est bloqué à cause de ça. Donc moi, je pense que les instruments existe, mais le point essentiel est ce que vous avez dit au début. Il faut sortir d'une bancarisation de la compétitivité et du système. Il faut éviter que notre économie soit banco-centrique. Et il faut faire en sorte qu'on soit capable de jouer sur plusieurs dimensions. Je pense que ça, c'est probablement l'élément essentiel et c'est nécessaire pour une meilleure compétitivité.
Vous parliez à l'instant de défense, puisque c'était une préconisation importante, hein, de votre rapport. Il était question de transition écologique, il était question d'élargissement, d'ailleurs on n'en a pas parlé, et puis il y avait souveraineté défense. Est-ce que vous diriez que ça, c'est une réalisation plus concrète et rapide des préconisations de votre rapport que de. L'environnement géopolitique, forcément, nous amène à y réfléchir, mais. Le fait que la Commission européenne ait pu proposer des exceptions à l'application des règles budgétaires en faveur du financement du secteur de la défense, est-ce que ça correspond à ce que vous espériez ou vous préférez toujours une vision un peu plus commune via l'ISM, si c'était rendu possible par la ratification italienne, ou est-ce que déjà vous êtes plutôt satisfait de l'utilisation de votre rapport dans cette perspective?
Bon, franchement, on ne peut pas être trop satisfait pour une raison très simple. Sur la question défense, on est en train d'aller trop dans la direction simplement, et je dis simplement entre guillemets, d'une montée en puissance de la dimension de la dépense au niveau national, pays par pays. Ce 5% qui a un peu dopé tout le système. Moi, je pense que la question n'est pas le pourcentage. Ça peut même être le 2 ou le 2,5 ou le 3. La question clé est de faire les choses ensemble. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe dépense beaucoup plus que tous les autres pays du monde, sauf les États-Unis. Le problème, c'est qu'on fait tous la même chose. Et on a une duplication des activités qui est absurde, absurde, sans une capacité de faire les choses ensemble. On est tous des petits pays en Europe. Seule la France a l'arme nucléaire et une tradition militaire différente. Mais le reste, on est tous des pays petits du point de vue de la capacité. Donc il faut se mettre ensemble. Et je pense qu'il faut se mettre ensemble. La France aussi doit le faire. Se mettre ensemble, ça veut dire consolidation, mergers, activités communes. Et je pense que cette nécessité est le vrai point. Donc, dette commune sur les dépenses de défense, ISM, mais aussi surtout la capacité d'intégrer les systèmes de défense et ne pas rester chacun séparé, fragmenté, parce que ça, à la fin, c'est le grand problème de tout. Vous savez que on a calculé que des premiers 140 milliards d'euros qu'on a donnés aux Ukrainiens pour aider à se défendre en tant qu'armement, 140 milliards d'euros, 80% a été employé pour acheter de l'armement non européen. Alors ça, c'est le vrai suicide de la fragmentation, parce qu'on a acheté à 80% de l'armement, surtout américain, mais aussi sud-coréen, turc. C'est vraiment de la folie à cause de la fragmentation, parce qu'on a des industries de défense de très bonne qualité, mais qui sont tellement fragmentées, chacune qui travaille pour elle-même, qu'évidemment, si on a un besoin immédiat, nous ne sommes pas en condition de le satisfaire. Et évidemment, aux Ukrainiens, on ne pouvait pas dire on vous donne ça, on vous délivre ça en 5 ans, en 10 ans, parce qu'ils en ont besoin aujourd'hui. Donc on a été les meilleurs créateurs d'emplois au Michigan, en Pennsylvanie, et tout ça avec l'argent du taxpayer, du contribuable européen. Il faut toujours avoir ça en tête quand on regarde qu'est-ce que ça veut dire la fragmentation. Et cette soi-disant souveraineté nationale qu'on tient comme grand drapeau de notre orgueil. C'est simplement aider le gouverneur du Michigan à faire plus d'emplois.
Je suis d'accord avec vous, hein, sur la fragmentation du secteur de la défense et le fait qu'on est effectivement poursuit une politique de subvention au bénéfice des États-Unis. Mais là, quand on prend un peu de recul et sur une politique européenne emblématique comme la politique agricole commune, on constate quasiment exactement la même chose. Mais ça fait donc depuis 62, 1962 que cette politique existe. Elle a subventionné le secteur agricole et elle a finalement, du fait de la désindustrialisation européenne et du fait qu'on produise beaucoup moins de machines agricoles, contribuer à financer des vendeurs de tracteurs américains qui, sachant que les paysans et les agriculteurs français et européens bénéficiaient de subventions, et les prix à la hausse pour bénéficier de ce marché extrêmement prometteur. Et donc, qu'est-ce qui va faire que l'Europe, finalement, va avoir cet électrochoc de comprendre qu'il lui faut se relancer pour le bénéfice de ses concitoyens en arrêtant de n'être qu'un client d'autres pays, les Chinois d'un côté, évidemment, parce qu'ils ont des capacités industrielles, mais les Américains de l'autre. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir cet électrochoc à un moment?
Je pense que l'électrochoc est là et il a été reçu. Sinon, on n'aurait pas eu cette prise de conscience qui a amené aux deux rapports et qui a amené à la prise de cette décision de 2028. Après, il y a quelque chose qui est en train de bouger tout de suite. J'ai fait référence auparavant aux consolidations dans le secteur des satellites. Je fais référence au fait que finalement, dans le secteur de la défense, on a un commissaire aujourd'hui européen qui est en train de faire un bon travail, qui a pris la relève de ce que à la DG Growth avait fait très bien Thierry Breton dans la précédente législature, qui aujourd'hui est en train de faire un travail pour arriver à cette intégration des systèmes de défense. Donc les choses sont en train de bouger. La même chose dans la Savings and Investments Union. Il y a 2 semaines, la commissaire Albuquerque a approuvé et a présenté la Savings and Investment Account Recommendation, qui est le premier pas pour aller dans la direction de de ces instruments d'épargne à l'avantage des consommateurs. Dans le secteur de l'énergie et de la connectivité, on attend la présentation des 2 plans avec toutes les directives et les régulations qui sont nécessaires. Donc, en vérité, les choses sont en train de bouger. Il y a eu le 19 octobre cette annonce du chancelier Merz qui a dit: je voudrais qu'il y ait une seule bourse en Europe. Et je pense que si le chancelier Merz dit une chose comme ça, en plus c'est quelqu'un qui connaît le domaine, je pense que c'est une bonne nouvelle. Si on avait une seule bourse en Europe, ce serait autre chose. Aujourd'hui, on a en Europe une vingtaine de bourses. La Nasdaq tout seul est comme les 20 bourses d'Europe multipliées par 2, tout ensemble multipliées par 2. Donc là aussi, c'est la démonstration de l'échelle. Dans le rapport, moi j'avais préconisé, j'ai présenté l'idée de cette Big Tech Stock Exchange, et donc une Stock Exchange en Europe en faveur de la tech. Je pense que ce serait aussi une autre piste. Mais vous avez raison. On n'est qu'au début. Donc moi, j'emploie tous les instruments que j'ai et cette occasion est pour moi absolument prodigieuse pour raconter tout ça et surtout pour dire 2028. Il faut se mobiliser tous pour qu'on arrive à ce résultat. Il faut tous pousser les gouvernements nationaux et les institutions européennes pour y arriver.
Je voulais qu'on parle aussi peut-être un peu d'une préconisation qui est dans le rapport, dont vous n'avez encore rien dit, et vous et moi n'en avons pas encore parlé. C'est ce principe d'une cinquième liberté de circulation. Hein, donc, on a une liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux, des personnes, mais pas tout à fait d'une liberté de recherche et développement, d'éducation. On a bien un programme Erasmus à destination des étudiants, des apprentis, mais vous préconisez que ce soit aussi à destination des lycéens. Est-ce que vous pensez que là aussi, les choses peuvent bouger et assez vite? Parce que nous avons parlé jusqu'à présent de choses qui semblent riches et importantes, mais qui peuvent être un peu déconnectées parfois de la vie quotidienne des personnes. On a difficulté à se représenter ce qu'une union de l'épargne et de l'investissement va apporter aux citoyens lambda, j'ai envie de dire. Est-ce que là, avec la cinquième liberté, on touche à quelque chose qui peut accélérer le rebond de l'Europe par une appréhension meilleure de ce que c'est que la mobilité pour les plus jeunes d'entre nous, de ce que c'est qu'une politique d'innovation plus ouverte? Voilà, je ne sais pas où ça en est par ailleurs dans ce que vous avez essayé de proposer.
Dans le rapport, il y a eu trois sujets qui ont trouvé dans les mois après un intérêt grandissant dans le public. L'un, c'est la cinquième liberté, l'autre, c'est le 28e régime, et l'autre, c'est la liberté de rester. Donc, sur la cinquième liberté, vous l'avez dit, il s'agit de mettre l'innovation, la connaissance, les skills, la recherche, donc l'intangible, au centre de la vie communautaire du futur, de l'avenir. La chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est que Madame von der Leyen a donné à la commissaire Saariev la compétence pour la cinquième liberté, en renommant cinquième liberté tout ça. Et la commissaire est en train de travailler avec beaucoup de détermination et de courage sur beaucoup de sujets. Le premier est le sujet de créer finalement le statut du chercheur européen et du diplôme européen. Ceux qui travaillent comme moi dans le monde universitaire européen savent qu'on devient fou avec la mutual recognition des diplômes. On se trouve en Europe, dans le même espace, on a l'Erasmus, on a la même monnaie, mais on n'est pas capable de faire sérieusement avancer ce dossier, ce qui est vraiment fou. Ça concerne les chercheurs, mais ça concerne surtout les diplômes. C'est un point fondamental de ce projet. Et en même temps, il y a toute la question de l'innovation et du financement de l'innovation et de la recherche, qui est liée aussi à la question dont on parlait auparavant de la Savings and Investment Union, qui est liée à l'investissement public, mais aussi l'investissement privé. Vous savez où les Américains nous ont battus dans les dernières 10 années? Non pas sur l'investissement public en innovation, ils nous ont battus sur la capacité d'investissement privé. Vous prenez tous les chiffres, ils ont multiplié fois 4 l'investissement privé dans l'innovation. Ils se sont retrouvés les premiers dans l'intelligence artificielle, ils se sont trouvés les premiers dans les lancements de fusées, etc. Ce que nous ne sommes pas en condition de faire à cause de la fameuse fragmentation dont on parlait. Donc, cinquième liberté. Je trouve que c'est un flagship important. Merci de l'avoir cité parce que ça me donne aussi la possibilité de faire référence à la centralité de ce sujet que j'espère puisse devenir de plus en plus central.
Peut-être un dernier thème à évoquer, alors qui n'a pas été central dans votre rapport, mais j'ai noté que c'était intéressant de savoir de se souvenir plutôt que votre rapport est rendu public quasiment en même temps que la réforme du pacte de stabilité et de croissance. C'est avril 2024, à peu près pour les deux, avril et mai 2024. Donc, est-ce qu'il y a dans les difficultés que nous rencontrons aussi, cette fragmentation, des difficultés propres à l'organisation des politiques économiques, à l'environnement macroéconomique dans lequel on est, avec donc des limitations aux politiques budgétaires nationales face à un budget européen qui reste de taille relativement limitée. Donc j'avais envie de vous demander d'une part si parmi les difficultés qu'on pouvait avoir rencontrées et qui pouvaient expliquer ces fragmentations entre les États membres, il n'y avait pas aussi les différences d'orientation de leur politique économique qui pouvaient avoir été à l'œuvre et les contraintes qui avaient été imposées à certains d'entre eux par ce pacte de stabilité et de croissance. Je pense notamment à un pays comme l'Italie qui est entré dans la zone euro parmi les premiers, mais avec une dette en proportion du PIB déjà élevé par rapport à la limite soi-disant autorisée, qui a dû faire beaucoup d'efforts et qui n'a pas arrêté d'en faire pour essayer de respecter ou sans faire quelque chose ces règles. Est-ce que derrière notre fragmentation, nos divergences, il y a ça aussi l'auto-imposition de limites budgétaires que les États-Unis ne se sont jamais imposées. Ils ont beau avoir un shutdown, en général, il est résolu physiquement après quelques tensions. Les Chinois n'ont évidemment pas les mêmes limites budgétaires que celles que nous nous sommes auto-imposées. Est-ce que ça ne joue pas aussi dans le diagnostic de nos difficultés et est-ce que ça ne va pas jouer in fine sur notre capacité à les dépasser?
Bah écoutez, ça fait partie de l'histoire européenne. On a 27 pays avec leurs propres différences par rapport à la dette. On a des pays qui ont 25% de dette publique, je pense au Luxembourg, et des pays qui ont 130%, je pense à mon pays. Donc il est évident que ça joue un rôle. Et il est évident aussi que ça joue un rôle dans la capacité de mettre ensemble ces différences dans des investissements communs, ce qui aujourd'hui est la limite la plus importante de l'Europe. On a été capable, dans les dernières années, de faire en même temps règles budgétaires strictes qui ont donné la possibilité à des pays comme le mien, ou comme l'Espagne, la Grèce, le Portugal, d'avoir aujourd'hui une bonne situation budgétaire. Et en même temps, on a fait Next Generation EU, donc qui a été l'investissement, la capacité d'investissement qui a aidé ces mêmes pays à se tenir sur un niveau de croissance important et positif. Moi, je pense qu'il faut donner un jugement positif sur tout ça. Je vous le dis parce que même mon propre pays, l'Italie, qui aujourd'hui se trouve avec des forces politiques au gouvernement qui avaient dit tout le contraire dans le passé de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Quand ils sont au gouvernement, en matière de tenue des règles budgétaires. Ça veut dire que les règles budgétaires sont plus importantes que le populisme ou tout slogan. C'est-à-dire, on sait que dans les marchés, il faut être sérieux. Il faut être sérieux, ça veut dire qu'il ne faut pas faire trop de dettes, il faut tenir un bon équilibre. Les États-Unis font ce qu'ils veulent. Nous, il faut tenir bien cet équilibre. Et surtout, le fait qu'on est si différent que ça est nécessaire. Le point central que je retiens de votre question est que ça a marché parce qu'il y a eu Next Generation EU. Sans Next Generation EU, je pense que tout ça va être plus compliqué. C'est pour ça que le vrai red alarm est lié au fait que l'année prochaine, les fonds de Next Generation EU vont s'arrêter. Donc on va entrer dans un post-Covid qui va avoir les règles budgétaires et le budget européen du pré-Covid, qui est trop petit. Donc il faut se poser le problème, la Savings and Investment Union est liée aussi à ce but, trouver une solution à un sujet qui est plutôt compliqué.
De quoi vous entendre, les règles budgétaires peuvent jusqu'à un certain point inhiber nos projets d'investissement. C'est pour ça que vous dites qu'il nous faut une union des marchés, enfin une union, pardon, de l'épargne et de l'investissement. Et donc, il vient un nouveau Next Generation EU. Pourquoi pas? Il y a 800 milliards hein, dans la proposition de budget européen de la Commission européenne rendue publique en juillet, qui sont un petit peu flexibles, qui pourraient ressembler un petit peu à un Next Generation EU 2.0. Mais est-ce qu'il nous faut donc aussi, en complément de votre union de l'épargne de l'investissement, essayer de repenser à l'émission d'un endettement européen? Première question. Et subsidiaire question, quel rôle pourrait tenir la Banque centrale européenne si on se lançait là-dedans?
Je pense que la question principale aujourd'hui est, avant toute discussion sur l'endettement commun, en fait, on en a fait, parce que sur la défense et sur safe, c'est de l'endettement commun. Je pense que la question principale est le safe asset européen. Si on est capable de construire finalement, à travers les titres qu'on a lancés, aujourd'hui, un safe asset européen qui puisse substituer les bonds allemands. parce qu'avec les bonds allemands, on entre dans le système du spread. Et avoir un safe asset européen, c'est la façon la meilleure pour éliminer cette fragmentation nationale, aussi du point de vue de la prise de risque et des règles. Et je pense que là, les temps sont mûrs pour y arriver. Je pense que même en Allemagne, aujourd'hui, on est en train de concevoir l'idée que c'est beaucoup mieux d'avoir un safe asset européen formel, formalisé, plutôt que continuer avec ce système du passé qui, franchement, n'a jamais bien marché. Donc, je pense, je me concentrerai comme premier point sur cet élément-là. Ce serait déjà un élément énorme de pas en avant.
Et vous diriez que ça devrait faire partie de cet agenda à l'horizon de 2028, d'y être parvenu?
Je pense que c'est un sujet sur lequel on peut avancer dans 6 mois. C'est une chose plus simple à faire de ce qu'on imagine.
D'accord. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question quand même, vu que les échos se déroulent en France, de regard que vous pouvez porter sur... alors, peut-être pas la politique française, mais sur la gestion des finances publiques françaises au regard des grands enjeux européens dont nous venons de discuter. Il faut arrêter cette fragmentation, relancer une meilleure connectivité, résoudre nos problèmes énergétiques, résoudre nos problèmes de souveraineté et de défense. Tout ça réclame de notre part à nous, Européens, un peu de convergence de vues, peut-être des fonds, peut-être des actifs sûrs. Est-ce que quel regard vous portez sur la France aujourd'hui et est-ce que ce n'est pas un frein malheureux, en tout cas pour quelque temps, à une intégration européenne renforcée au bénéfice de tous les Européens?
Bon, écoutez, la France a toujours été un moteur d'intégration européenne. Donc le problème est être un moteur ou ne pas être en condition de pousser. Moi, j'espère que la France soit toujours en condition de pousser parce qu'on a besoin de ce moteur. C'est un moteur d'intégration absolument fondamental. Comme je vous ai dit, beaucoup d'idées de mon rapport sont venues de mes échanges avec les milieux français, non pas seulement à Paris. J'ai visité beaucoup de villes de France pendant la période d'élaboration de mon rapport, mais je suis confiant. J'aime tellement votre pays que je suis confiant que la France puisse surmonter ces difficultés d'aujourd'hui et être encore le grand moteur de l'intégration européenne.
Merci, merci beaucoup et j'ai été ravi de pouvoir discuter avec vous et je vous remercie de la franchise de vos réponses. Merci beaucoup.
Merci.
Je vous remercie à mon tour. Je pensais juste à une chose. Il y a beaucoup de jeunes qui vont vous regarder, Monsieur Enrico Letta. Je pense que ça va être passionnant pour eux. Est-ce que vous imaginez quelque chose qui pourrait être un choc, un peu de génération, qui fasse qu'une génération se sente plus européenne que la précédente? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Souvent, avec les jeunes, je trouve qu'il y a tellement de distance avec les institutions européennes qu'on a du mal à les mobiliser.
Je pense, moi j'ai toujours pensé que cette idée du 28e régime est la bonne idée. De dire aux jeunes, écoutez, vous avez un fast track, un passe-partout européen dans quelques-uns des domaines, par exemple la question du diplôme européen ou d'autres, le chercheur européen, vous devenez européen. Donc vous n'avez pas besoin de passer par la dimension nationale et en faisant ça, vous êtes en condition de faire bouger les lignes en faveur d'une intégration. J'ai toujours pensé que ce soit ça la force.
Merci. Merci, c'est un échange passionnant.
Merci à vous.
Merci
Au
beaucoup,
revoir.
Emmanuel.
Bonne continuation. Au revoir.